France Culture. Le journal Servane de Pastre.
Bonjour à tous. Un bilan provisoire qui fait état d'au moins 167 morts et des recherches qui se poursuivent. On revient dès le début de ce journal sur le crash d'un avion de ligne en Corée du Sud. En Géorgie, des milliers de personnes dans les rues ce matin après la prestation de serment du nouveau président soutenu par le parti pro-russe au pouvoir. La présidente sortante pro-européenne se dit la seule légitime à ce poste. Et enfin, l'isolement en prison des 100 plus grands narcotrafiquants. La proposition du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, peine à convaincre. C'est l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire de la Corée du Sud. Selon les dernières informations, au moins 167 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de ligne low cost dans le sud-ouest du pays. Deux membres de l'équipage ont pu être sauvés. Le vol Jeju Air en provenance de Bangkok s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport de Muan. Il a heurté un mur avant de prendre feu. Camille Ruiz à Séoul.
Les lieux de l'accident sont désormais classés zone sinistrée spéciale par le président en exercice. À bord de l'appareil maintenant calciné, il y avait 181 personnes, la plupart coréennes, deux ressortissants thaïlandais. Le président par intérim, qui a pris ses fonctions il y a deux jours, a appelé les autorités à déployer tous les moyens pour l'opération de sauvetage. Yo Kyung-soo, responsable de la politique de sécurité aérienne au ministère des Transports, a tenu une conférence de presse.
D'abord, l'avion tentait d'atterrir sur la piste 1, mais la tour de contrôle les a prévenus d'une collision avec des oiseaux. Peu de temps après, le pilote a envoyé Mayday, le signal de détresse.
Le directeur général de la compagnie concernée, Jeju Air, s'est également exprimé. Nous présentons nos plus sincères condoléances et nos excuses aux passagers qui ont perdu la vie dans l'accident et à leurs familles endeuillées. Quelle qu'en soit la cause, j'en assume l'entière responsabilité. Des images montrent l'avion qui ne contrôle pas sa vitesse et s'écrase contre un mur d'enceinte de l'aéroport. Deux membres de l'équipage, deux femmes, ont survécu. Elles ont été transportées à l'hôpital.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. J'emporte avec moi la légitimité. Les mots de la présidente géorgienne sortante, Salomé Zourabichvili, lors d'un discours devant le palais présidentiel à Tbilissi. Ce matin se tenait la prestation de serment de son successeur, Mikhaïl Kavelashvili. Cet ancien joueur de football professionnel est connu pour ses prises de position homophobes et anti-occidentales. Il a été investi par le parti pro-russe au pouvoir Rêve géorgien. Dans la rue, des milliers de personnes ont manifesté leur désaccord. La présidente sortante veut continuer à mener la contestation, mais différemment. Julien Chavanne est l'envoyé spécial de RFI à Tbilissi.
Salomé Zourabichvili sait jouer avec les symboles. Après son dernier discours dans son costume de présidente, elle s'offre un bain de foule au milieu des milliers de partisans venus l'écouter.
La victoire est proche, mais il faut être patient. Il faut qu'on continue notre lutte. Les fêtes de fin d'année ne comptent pas. Nous avons une immense énergie parce que c'est l'énergie de l'amour, de l'avenir et de la victoire.
Autre ambiance, à 400 mètres de là, dans un parlement ultra sécurisé, sans public, Mikhaïl Kavelashvili prête serment devant les députés. Mais dehors, les manifestants sont déjà de retour. Cathy a un carton rouge et un sifflet dans les mains. Un message pour le président, ex-footballeur.
Le carton rouge, c'est pour dire stop, ça suffit. Et le sifflet, c'est pour être sûr qu'ils nous entendent. C'est le début de la fin pour le régime au pouvoir.
Le rôle que va jouer Salomé Zourabichvili est encore flou. L'ex-présidente, désormais opposante politique, a promis de rencontrer les manifestants à travers le pays et de mobiliser la communauté internationale pour organiser de nouvelles élections.
Julien Chavanne, l'envoyé spécial de RFI à Tbilissi. En Syrie, les restes de l'ère de Bachar al-Assad sont petit à petit relégués au rang du souvenir. Hier, le nouveau chef des services de renseignement a annoncé la restructuration de l'institution, particulièrement redoutée sous le règne du dictateur. Les anciens sièges du parti Baas, symbole du pouvoir autoritaire, sont abandonnés. Mais pour de nombreux Syriens, le chemin vers la justice reste encore long. Mohamed Erami, en Syrie pour France Culture.
Devant un ancien siège du parti Baas à Baramké, au cœur de Damas, ce symbole du pouvoir absolu est désormais abandonné. Après 50 ans de règne, le parti de Bachar al-Assad a suspendu ses activités et remis ses biens à la nouvelle administration. Maïsoun et Omar, présents près du bâtiment, voient dans cet abandon une victoire symbolique. Mais pour eux, cela ne suffit pas. Le parti et ses dirigeants doivent disparaître définitivement de la scène syrienne.
C'est le parti du diable. Nous étions opprimés à cause de lui et nous n'avions même pas la capacité de respirer.
Il ne peut pas revenir à cause des mauvais souvenirs dans l'esprit de tous les Syriens, ce parti étant un parti criminel.
Non loin de la mosquée des Omeyyades au nord de Damas, le hasard m'a conduit à rencontrer l'activiste politique et acteur syrien Maher Salibi. En évoquant avec lui les craintes des Syriens sur un éventuel retour du parti Baas, il m'a assuré que ce parti est désormais hors de l'équation politique et sociale et qu'il n'aura aucune place dans l'avenir de la Syrie.
Quand on se fait mordre par un serpent, on ne peut pas revenir et traiter avec lui à nouveau. Soit on met une barrière entre soi et lui, soit on l'élimine. Nous avons été mordus pendant longtemps par ce parti. C'est pourquoi il doit y avoir aujourd'hui des partis nouveaux et pluralistes.
Le parti Baas syrien a été fondé en 1947 à Damas. Il a pris le pouvoir en Syrie en 1963 par un coup d'état militaire avant que Hafez al-Assad n'en prenne le contrôle total par un coup d'état interne en 1970, devenant ainsi le président de la Syrie l'année suivante.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 300 personnes proches de Bachar al-Assad ont été arrêtées en quelques jours en Syrie par les forces de sécurité des nouvelles autorités. Au moins 3 migrants sont morts ce matin en tentant de traverser la Manche, selon la préfecture du Pas-de-Calais. 7 sont en urgence relative, selon le maire de la commune de Sangatte, au large de laquelle s'est passé le naufrage. Sur place, les opérations de recherche se poursuivent. Selon la préfecture maritime, de nombreuses personnes ont tenté de monter dans une embarcation surchargée vers 6h du matin. Une enquête a été ouverte. Ce drame porte à 76 le nombre de migrants décédés cette année en mer, un record. L'isolement forcé en prison pour les 100 plus grands narcotrafiquants, c'est l'une des propositions formulées ce matin par Gérald Darmanin. Dans un entretien au Parisien, le nouveau garde des Sceaux précise que cet isolement sera inspiré du modèle appliqué aux terroristes. Il affirme avoir demandé à l'administration pénitentiaire de lui faire la liste des 100 plus grands narcotrafiquants écroués. Bonjour, merci Anezic.
Bonjour.
Cette proposition suscite des interrogations.
Une première question se pose. Comment l'administration pénitentiaire va-t-elle réussir à dresser la liste des 100 plus grands narcotrafiquants? La tâche s'annonce compliquée. Selon Julien Pinelli, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, il s'exprimait sur France Info ce matin.
Qui peut, à l'heure actuelle, se livrer à une telle évaluation? Sur la base de quels critères? Sur la base de quels éléments? L'isolement, c'est une mesure qui existe aujourd'hui. Elle est d'ordre strictement administrative. Pour autant, j'imagine mal, encore une fois, en l'état, comment est-ce qu'on pourrait, d'une façon générale, apprécier parce qu'une personne est poursuivie pour des faits liés au trafic de stupéfiants, imposer une telle mesure de par la nature des faits qui lui sont reprochés.
Autre problème, les prisons françaises sont déjà surpeuplées. Bien sûr, il y aurait une question de place, mais nous ferons des choix, a reconnu le garde des Sceaux Gérald Darmanin dans Le Parisien. Johan Carrard, secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice, s'interroge.
De toute façon, nos quartiers d'isolement sont complets. Il n'y a plus aucune place. Pour rappel, à l'isolement, un détenu doit être seul, complètement isolé du reste de la population pénale. Donc, qui dit mettre des gens à l'isolement, c'est-à-dire en sortir. Donc, vous savez qu'à l'isolement, on peut avoir d'autres profils de détenus, tels que des profils terroristes, etc. Donc, on se dit quel va être le jeu de chaise musicale qui va être mis en place par le ministère et l'administration pénitentiaire. Inévitablement, il va falloir créer des places d'isolement, mais où, quand, comment? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, surtout en termes de budget. Comment ça va se passer?
Le garde des Sceaux veut en tout cas avoir les moyens de son action. Il rencontrera demain Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics.
Autre annonce gouvernementale, elle provient cette fois du ministre de l'Économie. Dans les pages de la Tribune dimanche, Éric Lombard dit vouloir inviter tous les partis politiques ainsi que les groupes parlementaires à dialoguer à Bercy dans les prochains jours. L'objectif affiché, trouver des compromis et faciliter ainsi l'adoption d'un budget. Une partie du gouvernement se rendra ce soir à Mayotte. Le Premier ministre François Bayrou décollera ce soir de Paris, soit 24 heures plus tard que la date initialement prévue. Il a promis d'apporter des solutions concrète, 2 semaines après le passage dévastateur de la tempête Chido dans l'archipel. Une visite écourtée, il s'envolera dès demain soir pour la Réunion. 2024 touche à sa fin. Tout au long de la semaine, France Culture s'intéresse à ce qui a changé ces 25 dernières années. Aujourd'hui, cap sur la recherche. En un quart de siècle, les réformes se sont accumulées. Récemment, la loi de programmation de la recherche a permis notamment de contractualiser ce secteur. Mais ces textes successifs n'ont pas permis d'atteindre la préconisation européenne, financer la recherche à hauteur de 3% du PIB. Écoutez Christine Musselin, directrice de recherche au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po et au CNRS. Elle répond aux questions de Cécile de Kervas-Doué.
Donc effectivement, on peut dire que depuis un quart de siècle, il y a eu un changement qu'on dit inspiré de nouvelles méthodes managériales venues des pays anglo-saxons, qu'on appelle le New Public Management. Et ces idées-là ont provoqué un changement de paradigme dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Alors, je ne sais pas si ce changement de paradigme est vraiment inspiré de New Public Management, qui visait surtout à introduire dans les institutions publiques des méthodes du privé. En tous les cas, il y a certains éléments du New Public Management qu'on peut retrouver, en particulier l'idée que la mise en compétition est une façon d'allouer les ressources qui est supérieure à celle qu'on avait auparavant, qui pouvait dépendre, par exemple, simplement du nombre d'étudiants, des surfaces, des locaux, etc. Et moi, je situe ce changement de paradigme vraiment autour du milieu des années 2000. D'une part, on passe d'un modèle de l'enseignement supérieur qui était vraiment basé sur un principe d'équivalence. Ça veut dire qu'une université française était équivalente à une autre université française, une licence de mathématiques était équivalente à une licence de mathématiques dans tout autre établissement. Cette idée-là, on l'abandonne en 2005. On commence à dire que l'attribution des moyens doit se faire sur le principe de la performance. Et ça, c'est une idée, effectivement, qu'on retrouve dans le New Public Management, qu'il faut mettre en compétition beaucoup plus fortement les établissements, les chercheurs, pour l'attribution des budgets.
Et ça veut dire quoi ? C'est une compétition saine ? C'est une compétition malsaine ?
Je connais pas de travaux qui ont regardé quels étaient les effets sur les agendas de recherche. J'en connais en Grande-Bretagne. Il y a un livre de Juan Pablo Guerra qui s'appelle The Quantified Scholar, dans lequel il a regardé quels étaient les effets de la mise en compétition par le Research Assessment Exercise sur les sujets de recherche dans les départements de sciences humaines et sociales. Et il montre qu'il y a un effet, effectivement. C'est-à-dire que le Research Assessment Exercise a amené les départements à redéfinir les contenus sur lesquels ils allaient travailler.
Est-ce que c'est la même chose en France, ça ? Parce qu'on parle parfois d'une recherche à la demande.
Alors, je ne sais pas s'il y a des envies politiques. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sujets qui sont nommés comme étant prioritaires au niveau national. Par exemple, tout ce qui est l'analyse quantique. Donc, quand vous êtes dans un laboratoire, vous allez éventuellement regarder quand même ce qui a été défini comme étant une priorité. Et peut y avoir effectivement des ajustements par rapport à votre agenda de recherche personnel pour essayer d'obtenir des moyens. Oui.
Et quelle est la place du privé là-dedans ?
C'est vrai que l'accent qui a été mis notamment sur les politiques d'innovation, sur le fait que la recherche devait déboucher sur de l'innovation, c'est vrai que ça s'est fait quand même au détriment d'une recherche plus fondamentale. Mais là, il y a eu quand même, c'est vrai, beaucoup de politiques qui ont été menées pour essayer de raccourcir ce temps, cette durée entre la découverte, je dirais, et puis la transformation de cette découverte en innovation et donc en produit qu'on va pouvoir mettre sur le marché.
Ce que disent beaucoup de chercheurs, alors est-ce que c'est lié à la mise en compétition ? Ils disent on est submergé de tâches administratives et bureaucratiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé en 25 ans.
Alors, ça a toujours existé, hein. Faut pas non plus se dire, il y a eu un âge d'or, à un moment donné, c'était formidable, on faisait que de la recherche et que de l'enseignement, et on avait tout le temps pour qu'on voulait pour faire de la recherche. Je pense qu'il y a deux choses qui ont bougé. D'une part, il y a la pression à l'enseignement qui est devenue plus forte, ça on pourra peut-être en reparler, mais c'est vrai que les moyens dédiés à l'enseignement ne progressent pas, alors que le nombre d'étudiants a augmenté, et donc il y a une pression très forte de ce côté-là. Et puis c'est vrai que la manière dont on fait de la recherche a changé, qu'on fait beaucoup plus de la recherche sur projet, et que faire de la recherche sur projet, ça veut dire gérer un projet, donc il y a toute une partie aussi plus bureaucratique, plus administrative. À ça, j'ajouterais aussi une plus forte bureaucratisation du fonctionnement des universités.
Toutes ces transformations, elles ont eu un impact positif, négatif ?
Sur ce qui est regardé souvent, c'est-à-dire le niveau de citation de la recherche française, le niveau de publication de la recherche française, c'est souvent ça qui est regardé. On peut pas dire qu'il y a eu un impact évident puisque pour l'instant on continue à baisser dans les classements internationaux sur ces aspects-là.
Donc c'est plutôt négatif.
Alors, il faudrait faire du contrefactuel, c'est-à-dire si on n'avait rien fait, est-ce qu'on ne baisserait pas encore plus vite ? C'est très difficile aussi d'apprécier les résultats d'une université. Enfin, on peut le faire effectivement avec des citation index, etc. Mais ça donne pas le contenu quand vous regardez le citation index. Vous êtes très haut, mais qu'est-ce que vous avez apporté ? Quelle est votre contribution à la science quand vous faites ça ? On n'en sait rien. De même que on peut regarder les débouchés, mais du point de vue des débouchés, c'est pas si mal que ça, ce que fait l'université française. Et moi, j'ai vraiment envie de la défendre, l'université française. On le dit pas assez. Et donc, je le dis fortement.
Christine Musselin, directrice de recherche à Sciences Po et au CNRS, au micro de Cécile de Kervas-Doué. La météo cet après-midi, la grisaille domine au nord, de belles éclaircies au sud. Les températures vont de 0 degré à Strasbourg et Metz à 16 degrés à Nice.